Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Pour faire face à la crise historique provoquée par le coronavirus, l'État a garanti à Renault un prêt de 5 milliards d'euros auprès des banques. Mercredi, le Canard Enchaîné révélait que le constructeur automobile envisageait de fermer plusieurs sites de production en France. Le groupe devrait annoncer un plan d'économie la semaine prochaine. L'État est-il en mesure d'exiger des contreparties au soutien financier apporté à Renault? Peut-il par exemple obliger le groupe à renoncer à des suppressions d'emplois ou à des fermetures de sites? Bonjour Bernard Julien.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Alors l'État a garanti ses 5 milliards d'euros de prêts aux constructeurs automobiles. Le constructeur était-il en difficulté avant la pandémie?
Oui, enfin, Renault avait essuyé les premières pertes depuis 10 ans sur l'exercice précédent, alors que le marché se portait encore assez bien. Donc ça veut dire que Renault a abordé la crise pandémique dans les pires conditions, avec en particulier des lancements de produits sur lesquels ils comptaient beaucoup et qui ont été en quelque sorte brisés dans leur élan. Hein, donc je cite Renault dans une situation aujourd'hui qui est particulièrement tendue, dirais-je.
Particulièrement tendue parce que, bien évidemment, lorsqu'on aborde...
Dans l'automobile, on a besoin de volume. Si les volumes baissent comme ça, probablement cette année en Europe, de l'ordre de 30 ou 40%, tout le monde va faire des pertes, mais ces pertes vont être abyssales pour Renault, alors qu'elles vont être davantage sous contrôle, je dirais, pour d'autres constructeurs qui avaient abordé la crise dans des situations plus favorables.
On a l'impression que Renault, comme d'autres entreprises d'ailleurs, annonce aujourd'hui des réductions d'effectifs, ou la volonté en tout cas de réduire ses effectifs, alors qu'il avait ses intentions avant la crise, Bernard Julien.
Oui, hein, très clairement, dès l'automne, hein, on avait entendu le management de Renault dire que il n'y avait pas de tabou et qu'ils estimaient qu'ils étaient en surcapacité en Europe, hein, c'est-à-dire que les pertes de parts de marché et de la marque Renault et de la marque Nissan font que, en gros, ils ont trop d'usines. De patates chaudes, là, des surcapacités.
Alors là, on vous a perdu pendant un moment, Bernard Julien. Vous évoquiez cette question donc des suppressions d'emplois prévues avant la crise.
Oui, hein, il y a aujourd'hui pour Renault et son allié Nissan ce qu'ils appellent des surcapacités en Europe, c'est-à-dire des usines surnuméraires. Et il était prévu que Renault s'attaque à ses surcapacités. C'est donc ce qui est en train de se concrétiser avec la crise pandémique qui donne une occasion supplémentaire, je dirais, de hâter ce mouvement que Renault avait envisagé de faire déjà à l'automne.
Mais alors, oui, parce que évidemment, on peut considérer que les effectifs sont surnuméraires ou bien les voitures ne se vendent pas assez, en tout cas les voitures que produit Renault, c'est l'une des questions. Ce que l'on comprend mal dans le cas de Renault, c'est qu'il y a eu des lancements de produits. Il y a eu, par exemple, la renaissance de la marque Alpine, et puis cette renaissance qui, semble-t-il, avait été couronnée de succès, puisque les voitures bleues légendaires en France se sont arrachées, eh bien, ces ventes ont malgré tout abouti à la décision de Renault d'arrêter la marque Alpine. Alors, par exemple, dans ce cas d'espèce, comment expliquer ce revirement, Bernard Julien?
A priori, hein, Renault a besoin effectivement de serrer les boulons pour retrouver une profitabilité. Le management a dû estimer que la priorité n'était pas forcément de reconstruire une marque comme Alpine. Hein, donc aujourd'hui, on a cette annonce d'une fermeture de l'usine de Dieppe qui assurait la fabrication de ces Alpines. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur l'avenir de cette initiative, on n'en sait pas trop, hein, mais évidemment, Renault doit arbitrer entre un certain nombre de priorités, et effectivement, ils ont évidemment besoin d'aller plus vite et plus fort sur l'électrique, ça va demander beaucoup de moyens que Renault n'aura pas ou moins, hein, et par conséquent, il y a des arbitrages un peu difficile qui devrait être rendu dans les mois à venir.
Pourtant, Renault est l'une des marques qui a le plus investi dans l'électrique, puisque ça faisait vraiment partie de l'objectif de Carlos Ghosn. Et depuis très longtemps, il y a eu la Zoé, qui est un petit modèle électrique qui a été lancé il y a longtemps déjà, Bernard Julien. Alors comment expliquer que cette décision ayant été prise il y a longtemps, aujourd'hui, Renault ne soit pas dans une situation favorable par rapport à la voiture électrique?
Renault est dans une situation qui n'est pas qui n'est pas mauvaise, hein, simplement. Renault a été sans concurrence pendant longtemps sur ce terrain-là. Aujourd'hui, il y a une concurrence extrêmement forte, y compris du français Peugeot, sur ces modèles-là. En avril, on a vu la Zoé qui a toujours été largement en tête, devancée par la 208 électrique. Hein, par conséquent, Renault est certes dans une position où la croissance de l'électrique devrait lui profiter, mais ça ne suffira pas à ce que Renault ait une position qui lui permette de retrouver une profitabilité aujourd'hui défaillante.
La communication de Carlos Ghosn, on l'a entendu il y a quelques semaines. Carlos Ghosn, aujourd'hui, n'est plus véritablement dans la rubrique entrepreneuriale, mais plutôt dans la rubrique judiciaire des journaux. Et cependant, il a expliqué que depuis son éviction de Renault, l'entreprise allait mal. Est-ce que, indépendamment du jugement que l'on peut formuler au sujet de l'homme et de ses actes, est-ce que l'entrepreneur, le PDG, avait réussi à faire de Renault une belle entreprise, une belle marque, alors que Renault a déjà connu de nombreuses vicissitudes?
Alors bon, je pense qu'une entreprise, ça ne vit pas que à travers son PDG. Hein. Donc, les succès de Renault ces 10 dernières années tiennent au moins autant à ce qu'avait entrepris dans les années, à la fin des années 90, plus Schweitzer, qu'à ce qu'a poursuivi Carlos Ghosn. Hein. Ce qu'il y a de clair, c'est que le départ de Ghosn a généré une crise de gouvernance qui couvait depuis de longues années avec l'allié. Aujourd'hui, les choses semblent aller mieux, mais évidemment, la situation de pandémie fait que Renault, qui aurait de toute façon souffert cette année, souffre plus encore avec la chute des ventes, hein, et avec le fait aussi quand même que autant lors de la crise précédente il y avait eu rapidement des relais à l'international, autant pour Renault comme pour les autres, ces relais vont manquer là dans les mois à venir. Hein, Renault est absent de Chine, on le sait, et ensuite il manque la Russie avec le Brésil.
Voilà. Oui, et puis
il y avait eu un décollage et Renault ne va plus faire de volume.
Merci beaucoup Bernard Julien. On va écourter cette conversation parce que la liaison téléphonique est vraiment très mauvaise. Mais ce que l'on comprend, c'est que Renault va devoir bénéficier d'une aide de l'État, et apparemment une aide de 5 milliards d'euros. L'État a exigé que le constructeur ne verse pas de dividendes et dans le même temps, Édouard Philippe a déclaré qu'il serait intransigeant. Donc la vraie difficulté, cela va être maintenant ce bras de fer. Est-ce que, par exemple, l'État pourrait imposer à Renault de renoncer à des suppressions d'emplois? Et ça n'est pas véritablement évident, d'autant que l'activité la plus profitable de Renault est logée à l'extérieur de la France. Ce n'est pas la première fois que l'État vient à la rescousse de Renault. Il l'avait déjà fait avec la crise de 2008 et il avait exiger qu'il n'y ait pas de fermeture d'usine. Par conséquent, on va voir aujourd'hui dans quelle mesure ce bras de fer, après l'aide que l'État va donc apporter à Renault, permettra d'éviter les fermetures d'usine. Il est 7h22 sur France Culture.